présenté ce soir par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Il n'y a plus de candidat tête de liste. La République en marche à Paris ce soir en attendant que le parti présidentiel réorganise sa campagne suite au retrait de Benjamin Griveaux. Les marcheurs sont privés de facto de campagne électorale et les conséquences politiques de cette affaire dépasseront sans doute le cadre strictement parisien. On fait le point avec Stéphane Robert dès le début de ce journal. Le groupe Renault annonce réfléchir à la fermeture d'usines dans le cadre d'un plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans. Les syndicats du groupe sont sous le choc. Explication d'Aki Kim Kasmi. La romancière turque Asli Erdogan, acquittée ce matin par la justice de son pays. Asli Erdogan était poursuivie pour avoir simplement écrit dans le journal pro-kurde Özgür Gündem. Nous l'écouterons dans ce journal. Et puis l'enquête du service investigation de Radio France. Elle est signée ce soir Benoît Colomba sur les tremblements de terre, semble-t-il, provoqués en Ardèche et dans les Pyrénées-Atlantiques par l'activité humaine. La candidature de Benjamin Griveaux, dynamitée par quelques images, par des vidéos à caractère sexuel publiées sur Internet et par la révélation d'échanges privés, d'ailleurs encore non identifiés. C'est ce qu'on appelle du revenge porn ou porno-divulgation et c'est puni par la loi, on va y revenir. La mise en ligne de ces images privées a été revendiquée par un activiste russe qui n'a pas ce soir pour seule victime la personnalité et la réputation de Benjamin Griveaux. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir.
Chef du service politique de France Culture. En effet, on peut parler, Stéphane, d'une catastrophe également pour le parti au pouvoir. Nous sommes à un mois du premier tour des municipales et il n'y a plus ce soir de candidat tête de liste pour La République En Marche à Paris.
Non, En Marche n'a plus de candidat pour les municipales à Paris. Benjamin Griveaux était le candidat officiel du parti présidentiel. Il vient de se retirer. Et le dissident Cédric Villani, même s'il conserve l'image d'un marcheur de la première heure, a finalement été exclu du mouvement le 29 janvier dernier pour cause de dissidence. À un mois du premier tour de scrutin, c'est évidemment problématique, vous le disiez, pour La République En Marche, étant donné qu'on voit mal qui pourrait se substituer à Benjamin Griveaux au tout dernier moment. Ce serait un candidat par défaut qui n'aurait ni été choisi ni été préparé. Un candidat, faute de mieux, donc, dont on voit mal comment il pourrait installer une dynamique en sa faveur et en faveur des marcheurs à seulement 4 semaines de l'élection. La secrétaire d'État Marlène Schiappa a d'ailleurs décliné tout à l'heure une éventuelle candidature de substitution, consciente sans doute de l'ampleur de la difficulté de la tâche. Reste une éventuelle solution pour les marcheurs, se tourner vers celui qu'ils ont beaucoup critiqué, qu'ils ont fini par exclure le 29 janvier dernier, Cédric Villani. Villani qui en aucun cas n'acceptera de reprendre l'étiquette En Marche, mais qui en échange d'un soutien ou d'un pacte de non-agression pourrait peut-être accepter de prendre sur sa liste une partie des équipes de Benjamin Griveaux. On ne ferme aucune porte, expliquait l'équipe de campagne de Cédric Villani il y a quelques minutes. Des discussions semblent avoir débuté. Elles devraient se poursuivre tout au long du week-end.
Là, évidemment, la portée de cet événement, Stéphane, dépasse les frontières de Paris. Pour Emmanuel Macron, pour La République En Marche, le scrutin des municipales à Paris, c'est évidemment une élection capitale.
Oui, Paris, c'est un symbole. C'est même le symbole du succès d'Emmanuel Macron en 2017, puisqu'il y avait obtenu 35% au premier tour de la présidentielle et 90% au second tour. Si le parti du président devait être battu, ce serait donc un revers en soi et ce serait d'autant plus grave en cas de défaite d'un candidat En Marche dès le premier tour, mais ce serait aussi et surtout préjudiciable pour la suite du quinquennat, en particulier dans la perspective de la présidentielle de 2022. Paris, c'est la capitale de la France, c'est là où se trouvent les institutions, le siège du pouvoir. Une défaite à Paris pourrait donc être lue et interprétée comme une défaite personnel du président de la République, au même titre qu'une victoire pourrait masquer en partie, en tout cas, les difficultés d'implantation que va vraisemblablement rencontrer En Marche ailleurs en France. Il y a donc là un enjeu national qui va bien au-delà de l'enjeu municipal.
Merci Stéphane Robert. Cette affaire concerne visiblement l'ensemble d'ailleurs de la classe politique française, inquiète de manière assez unanime sur ce que tout ça dit du climat du moment. C'est une attaque indigne et une menace grave pour notre démocratie, a expliqué tout à l'heure le candidat dissident dont vous parliez, Cédric Villani. Pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, candidate à sa propre succession, il faut en revenir au respect de la vie privée et des personnes pratiquant odieuse, estime Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Voilà quelques-unes des réactions provoquées par le retrait de Benjamin Griveaux. Écoutez ce qu'en dit Aurélien Pradier de son côté. Il est secrétaire général des Républicains et député du Lot.
J'ai depuis ce matin un sentiment très simple, c'est celui d'avoir, comme on dit très clairement, d'avoir la gerbe. J'ai la nausée. Je l'ai nausée parce que je suis pas un animal, je pense qu'on fait pas de la politique pour se comporter comme des animaux, et qu'en l'occurrence, le spectacle auquel on assiste ce matin est un spectacle bestial, animal, qui n'a rien à voir ni avec la politique, ni avec la démocratie, ni avec l'idée qu'on peut se faire de la vie en société. Tout ça est minable. tout ça est minable, le procédé est minable, l'impact politique que ça peut avoir est minable. Je dis les choses brutalement, mais je pense que notre vie politique est en train de devenir minable. Et ce que je crains, c'est que notre démocratie soit aussi en train de devenir minable. J'ai toujours combattu Benjamin Griveaux, parfois de manière extrêmement dure, mais pas sur ces terrains-là. Moi, mon plus grand désir était que Benjamin Griveaux échoue politiquement, pas qu'il soit détruit personnellement.
Aurélien Pradier, alors en dehors du cadre strictement politique de cette affaire, les atteintes à la vie privée par diffusion d'images à caractère sexuel ont augmenté de 37% entre 2018 et 2019, fait savoir ce soir le ministère de l'Intérieur qui indique que 255 infractions ont été constatées en France sur l'année 2019. Ces actes sont punis jusqu'à 2 ans de prison et 60 000 euros d'amende. L'avocat de Benjamin Griveaux a d'ailleurs annoncé très vite qu'il allait porter plainte pour atteinte à l'intimité par diffusion d'images à caractère sexuel, mais aussi pour violation de la vie privée. Dans le viseur de son avocat, l'activiste russe Piotr Pavlinsky, qui a revendiqué la diffusion des images ce matin, ainsi que toutes les personnes qui lui auraient apporté leur concours. Écoutez l'avocat Alain Bensoussan, spécialiste en droit du numérique.
Il y a plusieurs qualifications possibles. La première, c'est violation des correspondances privées. C'est-à-dire le destinataire de ces vidéos pourrait se voir reprocher une communication si tel serait le cas. Il y a atteinte à la vie privée, bien sûr. Il y a fraude informatique et vol d'informations associées. Il y a vengeance pornographique. Et puis, il y a atteinte au droit à l'image, bien évidemment.
La loi a évolué au cours des dernières années sur, en tout cas, au moins l'une des qualifications que vous mentionnez.
Oui, tout à fait, notamment en matière de vengeance pornographique. C'est les articles 226.1 et suivants. Et dans ce cadre-là, on a sanctionné ce type de comportement qui porte atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne concernée. On a maintenant une nouvelle situation, c'est que du temps de l'analogique, l'atteinte à la vie privée, c'était surtout de la surveillance de personnes à travers les carreaux. On voit ça au cinéma. Aujourd'hui, avec les capteurs, les smartphones et les réseaux sociaux, on démultiplie les captations. Ce n'est pas une différence de nature qu'une différence de modalité. Et ces captations, il faut nécessairement les réguler et notamment peut-être renforcer encore plus les textes et passer de la protection de la vie privée à la protection de l'intimité numérique.
L'avocat Alain Bensoussan, des propos recueillis par Florence Sturm. Après une année catastrophique sur le plan médiatique et diplomatique en raison de l'affaire Ghosn et sur le plan économique avec des pertes nettes établies pour 2019 à 141 millions d'euros, le groupe Renault a évoqué aujourd'hui la possibilité de fermer une ou plusieurs usines sur la quarantaine qu'il exploite de par le monde dans le cadre d'un programme d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Benoît Bouscarel.
Une fermeture serait inédite pour Renault depuis Vilvoorde en Belgique en 97. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais ce soir, les syndicats sont sous le choc.
Oui, un choc, car malgré des pertes pour la première fois depuis 10 ans, Renault, troisième constructeur mondial, reste solide financièrement. Mais le groupe s'est engagé dans une course à la compétitivité depuis longtemps, en multipliant ces 15 dernières années les délocalisations pour réduire ses coûts, notamment dans le bassin méditerranéen ou encore en Europe de l'Est, comme en Roumanie. Résultat, Renault ne produit plus aujourd'hui que 30% de ses véhicules en France, une course au coût que dénoncent les syndicats, qui estiment aussi que la marque aux losanges paye ses mauvais choix stratégiques. Fabien Gache est délégué central CGT chez Renault.
Renault dispose effectivement de moyens importants puisque on a en trésorerie plus de 16 milliards. La dette de Renault n'a pas vraiment bougé. Renault n'a aucun souci pour payer sa dette. Donc nous, ce qu'on considère aujourd'hui important et déterminant pour l'avenir de Renault, c'est précisément pour diminuer les coûts, ça veut dire qu'il faut rééquilibrer les volumes de production, c'est-à-dire recharger les usines françaises avec des volumes de production qui ont été pour l'essentiel délocalisés en Turquie, en Espagne, en Slovénie, au Maroc, etc., etc.
Parmi les sites français déjà en difficulté, Cléon en Normandie qui emploie 3345 personnes où des mesures de chômage partiel sont déjà en vigueur. Idem dans l'usine de Douai dans le nord de la France qui fabrique notamment la Scénic, l'Espace. Renault qui n'a plus fermé l'usine depuis 1992 en France emploie 48 000 personnes dans le pays.
Merci Hakim Kasmi. Comment lutter contre le fléau des cancers pédiatriques? Demain, la journée internationale du cancer de l'enfant se propose de faire le point sur ces maladies
qui sont toujours plus fréquentes, y compris en France. 2500 nouveaux cas sont recensés chaque année. Dans 8 cas sur 10, la guérison est au bout du traitement, mais les séquelles sont souvent handicapantes. Il est donc indispensable de se pencher sur la prévention, estiment les familles. Plusieurs associations ont obtenu, il y a 15 jours, l'organisation d'une première table ronde à l'Assemblée nationale pour faire de la santé environnementale une priorité. Autour de la députée de Loire-Atlantique, Sandrine Josseau, des scientifiques, des parents et quelques élus locaux. Reportage Tara Schlegel.
Soit on reste, on ne veut pas parler du problème, soit on prend les choses à pleine main, on parle du problème, et puis on n'a pas peur, on ne montre personne du doigt, et on avance, et on fait changer les pratiques. Parce que sinon, c'est des enfants qui décèdent.
Michael Derangeon est père d'un enfant qui n'a pas de cancer, mais souffre de microcéphalite. Il fait partie d'un collectif qui a réalisé des mesures pour alerter sur les effets cocktails.
Nous, juste pour, par curiosité, on a dosé les pesticides dans une bouteille de vin qui vient de notre territoire. Donc c'est un vignoble qui utilise peu de pesticides parce qu'il est en agriculture raisonnée. Donc il a une vraie pratique de travail du sol, pas d'herbicides. Eh bien vous pouvez voir juste ça, j'ai zoomé un petit peu. Dans la bouteille de Gamay, il y a 117 microgrammes par litre de Folpel. Donc on a les producteurs de syndicats d'eau qui luttent de façon acharnée pour arriver à une norme de 0,1 microgramme. Et on vend du vin qui est 1200 fois la norme de potabilité. Je ne sais pas si vous imaginez ce que nos enfants ils doivent absorber dans ces régions en folpel et en pesticides. C'est astronomique.
Marie Thibault, du même collectif, est celle qui a signalé aux autorités sanitaires les 20 cas de cancer groupés près de Sainte-Pazanne. S'en est suivie une enquête épidémiologique, mais Santé publique France a exclu nombre de causes possibles relevées par les parents.
Ils ont éliminé toutes les questions sur les cosmétiques, les perturbateurs endocriniens, rien dedans. Ils ont posé quelques questions sur la qualité de l'eau. Finalement, ils ne les ont pas retenus dans les conclusions. Ils ont posé quelques questions sur les champs électromagnétiques. Il y en a effectivement sous la cour de l'école. Il y en a d'autres ailleurs. Ils les ont pas pris en compte. Tout ce qui est viticulture, bout d'épandage également, refus de le prendre en compte dans le questionnaire. Donc effectivement, conclusion du questionnaire, il n'y a rien. Bah effectivement, on le savait déjà, toutes les familles ont renvoyé à Santé publique France qu'ils ne voulaient même pas remplir presque ce questionnaire, tellement il ne servait à rien.
Face à cette inaction publique, Stop au cancer de nos enfants veut qu'on crée des observatoires locaux pour mesurer les sources de pollution. Stéphane Védrenne représente une autre association, Eva pour la vie.
On a la chance d'être dans l'un des pays les plus riches au monde. On a tout pour le faire. On a tout. Ce qui manque, c'est de la volonté politique. Je pense qu'on y arriverait si l'ensemble des élus, à un moment donné, se mettaient réellement à la place de ses enfants et de ses parents. Nous, on sait. Pardon, excusez-moi.
Stéphane a perdu sa fille en 2011. Sandrine Josseau, la députée, promet d'écrire à ses collègues et organise en avril une nouvelle réunion pour essayer de faire bouger les lignes.
Reportage de Tara Schlegel. En Allemagne, 12 personnes ont été arrêtées aujourd'hui dans une enquête sur un groupuscule d'extrême droite qui préparait visiblement des attentats. Ces attaques auraient visé des politiques, des demandeurs d'asile et des musulmans, d'après les enquêteurs. La romancière turque Asli Erdogan, acquittée par la justice de son pays, la décision a été rendue ce matin à Istanbul. Asli Erdogan était poursuivie depuis 2016 pour avoir simplement écrit dans le journal pro-kurde Özgür Gündem concernant des faits relatifs à la période d'après la tentative de coup d'État contre le président Tayyip Erdogan. L'écrivaine ne s'attendait pas à la clémence.
J'étais convaincue que j'allais être condamnée, que tout ce procès était monté dans le seul but de m'infliger une lourde peine. Je suis encore sous le choc. D'une certaine façon, je suis soulagée, mais même si le verdict est tombé, je crains que ce ne soit pas terminé, qu'il y ait encore une plus haute juridiction qui prenne le relais. Ça ne change rien à l'arbitraire de ce système judiciaire qui décide, comme ça, de vous arrêter ou de vous libérer. C'est toujours la même corruption. Cette fois, le juge a été clément et on ne peut jamais savoir.
Asli Erdogan. À Haïti, aujourd'hui, 15 enfants sont morts dans l'incendie d'un orphelinat insalubre de Kenskoff, commune située sur les hauteurs de l'agglomération de Port-au-Prince. L'établissement en question n'avait plus l'autorisation légale d'opérer depuis 2013. Au Mali, au moins 20 villageois ont été tués dans une attaque la nuit dernière dans le village d'Ogo-Sagou, dans le centre. L'information est donnée par plusieurs sources locales. Le village d'Ogo-Sagou avait déjà été touché par le massacre de 160 Paul il y a un an. Dans le pays, l'armée a fait hier son grand retour à Kidal après 6 ans d'absence. L'opération a été menée avec une escorte composée de casques bleus de l'ONU. C'est le résultat de négociations menées avec les forces touareg toutes puissantes dans la région. Les précisions de Marwa Mann.
Le redéploiement de l'armée malienne à Kidal est un symbole fort. Situé à plus de 1600 km de Bamako, ce bastion Touareg aux confins du pays est tenu par les hommes de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, du nom de cette région du nord du Mali dont ils revendiquent l'autonomie. Ces ex-rebelles sont les vrais maîtres de la ville. Rien ne peut se faire sans leur accord. Ce sont eux qui ont chassé militairement l'armée malienne en 2014. Depuis, Kidal échappait totalement au pouvoir central. Les conditions du retour des soldats maliens ont été âprement négociés entre les différentes parties. La France, qui dispose d'une base dans la ville, a joué un rôle crucial dans ce redéploiement qui s'est déroulé sous le contrôle serré des forces de l'ONU, la MINUSMA. Ce retour est indéniablement une grande victoire pour le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, et à travers lui, l'État malien qui cherche à restaurer son autorité dans le Nord en échange d'une plus grande autonomie pour les Touaregs.
18h15 sur France Culture, la suite du journal avec l'enquête du service investigation de Radio France. Elle est signée ce soir Benoît Colombat. Bonsoir.
Bonsoir.
L'homme peut-il, Benoît, par ses activités, provoquer ou favoriser la survenue de tremblements de terre? Question qui paraît saugrenue et pourtant, elle se pose notamment depuis le séisme du Teil en Ardèche. C'était le 11 novembre dernier, un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter. Séisme sur lequel vous avez enquêté, Benoît.
Oui, parce qu'officiellement, il a été dit qu'il s'agissait d'un tremblement de terre comme beaucoup d'autres, dû aux caprices de la nature, et cela malgré l'activité d'une carrière de la société Lafarge, dont le rôle intrigue les sismologues. Mais officiellement donc, selon le communiqué de la préfecture de l'Ardèche, l'histoire est assez simple. Voici un extrait de ce communiqué que nous avons fait lire.
Toutes les indications relevées démontrent que le séisme du Teil et de ses environs s'est produit sur une faille préexistante. Son origine est donc naturelle et causée par la pression entre les plaques. Le rôle que la carrière du Teil aurait pu avoir sur ce séisme apparaît donc négligeable.
À la lecture de ce communiqué, donc Benoît, l'affaire semble réglée. Où est le problème?
Eh bien, le problème, c'est que non seulement le communiqué ne reflète pas exactement ce qui a été dit dans un rapport scientifique rendu par un groupe de sismologues, mais surtout, ils sont plusieurs chercheurs à penser que des tirs répétés sur cette carrière pourraient avoir joué un rôle dans ce séisme, d'où l'étonnement de Stéphane Guillot de l'Institut National des Sciences de l'Univers.
Je vous avoue que nous avons été surpris par ce communiqué. C'était un raccourci, évidemment, des conclusions du rapport qui était très précis. Je pense que c'est lié au fait qu'il y avait besoin pour la société Lafarge de reprendre ses activités. Ses activités ne pouvaient reprendre que s'il y avait accord de la préfecture. L'hypothèse la plus probable, c'est que l'activité de la carrière a pu accélérer ce processus, produire la petite étincelle, ce déclenchement de séisme, ici à cet endroit.
Et il n'est pas le seul à le penser. Le sismologue Florent Bringuier fait partie du groupe de travail chargé d'étudier le séisme du Teil.
L'effet de la carrière a probablement eu un rôle. Il n'est pas négligeable. On prend souvent l'image de la table comme ça qu'on cherche à déplacer, hein, qui est coincée. En allégeant une partie de la table, hein, en enlevant des plats par exemple, on facilite son glissement. C'est ce qui a pu se passer, en tout cas c'est ce qui a pu contribuer à affecter la rupture sismique.
Du côté de Lafarge, sans rien exclure, on a quand même du mal à croire à une éventuelle responsabilité de la carrière. L'entreprise se dit à la disposition des autorités et des scientifiques pour éclairer ce qui s'est passé.
Ouais, le problème, Benoît, c'est qu'on ne se pose pas des questions uniquement en Ardèche.
Alors effectivement, c'est aussi le cas sur le site de Lacq dans les Pyrénées-Atlantiques. Pendant 40 ans, on a extrait du gaz sur ce site, ce qui, on le sait maintenant, a provoqué une multitude de séismes, alors plus ou moins importants, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut savoir que des industriels injectent également des eaux usées dans le sous-sol sur le site de Lacq. Et pour le sismologue Jean-Robert Grasso de l'Institut des sciences de la Terre à Grenoble, cela pourrait entraîner un séisme beaucoup plus important, comme ça s'est déjà passé aux États-Unis.
Ce qui est intriguant et alarmant, c'est que les volumes cumulés d'eau polluée injectés à Lacq depuis les années 60 sont du même ordre de grandeur que les volumes qui actuellement sont attribués aux grosses magnitudes déclenchées par ces mêmes types d'injections d'eau polluée en Oklahoma, dans le nord du Canada ou en Chine. La conclusion majeure, c'est qu'on peut attendre un séisme beaucoup plus gros de magnitude 5 à Lacq lié aux activités industrielles que ce qu'on avait envisagé jusqu'alors sur la base du seul rôle de l'extraction de gaz.
Je précise que d'autres sismologues partagent ce constat. La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL, en Nouvelle-Aquitaine, explique, elle, qu'à ce stade, rien ne permet d'envisager cette hypothèse. Au total, 700 cas de sismicité liés à l'activité humaine ont été validés par des études scientifiques à travers le monde.
Merci Benoît Colomba, votre enquête est à retrouver en longueur sur notre site internet franceculture.fr. Le temps demain sera pluvieux sur le nord-ouest et ensoleillé au sud, d'après Météo France, avec des températures toujours très douces, trop douces probablement pour une mi-février. Après quelques rares gelées matinales sur le massif central, les maximales dans l'après-midi atteindront de 11 à 15 degrés sur la moitié nord et pas moins de 15 à 18 degrés dans le sud, jusqu'à 21 voire 22 degrés sur le sud de l'Aquitaine. À 22h, vous avez rendez-vous avec Stéphane Genest pour le prochain journal de la rédaction. Merci à Jean-François Braun qui a aidé à la préparation de celui-ci. Voici maintenant Emmanuel Laurentin à 18h20 sur Culture.
Merci beaucoup, Benoît Bouscarel. Exactement.